Bienvenue sur le podcast. Le podcast de trouver objet caché. www.tentaculesse.net. Le site francophone dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. À vous les poulpes.
Salut les poulpes.
Fungui bon.
Ah ouais, merde, c'est Fungui. Fungui les poulpes.
Fungui bon.
Alors bon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de poulpcast, Wolf. Bien sûr, il a fallu qu'on présente, prépare la nuit poulpique et toutes ces cochonneries. Mais ce poulpcast sur lequel nous sommes aujourd'hui va parler de la 6e édition de l'Appel de Cthulhu, sortie par Sans Détour. N'est-ce pas, Wolf?
Ouais.
Je sais que tu l'as vu chez moi. Nous avions une édition quelque peu collector sur papier, que nous avons fait baver les poulpes chez eux. J'ai bien entendu les crépitements de la bave dans les claviers.
À les sursauts d'horreur.
Ah oui.
Il y a même qu'on traquait ton adresse.
Tu crois?
Ouais. Oh.
Bah bon, c'est pas grave. Je ne vis absolument pas là où c'est marqué. Je ne m'appelle pas François. C'est une fausse identité. Donc, dans ce poulcast, nous allons disons discuter de la V6.
Car bien sûr, on devrait la décortiquer un petit peu là.
C'est vrai, ça va être de rentrer dans le détail, de plus en causer, parce que nous, on sait ce que c'est. N'est-ce pas?
Quoi? Ouais, tu veux décortiquer mon poulpe?
Wolf?
Quoi?
Qui c'est qui a parlé?
Eh oui, c'est chez moi.
Wolf, il y a quelqu'un chez toi?
Non, attends, je vérifie.
Mais la Wolfette, elle, elle a des problèmes de voix ou quoi là?
Non, elle bosse là.
Aurions-nous invoqué Lovecraft par hasard avec notre discussion?
Je sais pas.
Qui que vous soyez, présentez-vous!
Eh bien, c'est CG.
Oh mon dieu! Quel effet
surprise! C'est pas possible!
C'est pas possible! Mais que fais-tu ici? Car oui!
J'étais sur les ondes et je t'ai entendu. Tu m'as invoqué, j'arrive!
Cette introduction est titanesque, je pense qu'elle sera au panthéon des meilleures œuvres de Lovecraft. Et oui, car, bande de poulpes, nous avons avec nous donc Christian. Christian qui est en réalité quelque peu le chef, le maître poulpe à bord de Sans Détour. N'est-ce pas, Christian?
C'est un bien grand mot, mon cher Bonve.
Ouais, en même temps, c'est toi qui a eu l'idée de relancer la chose. Pas tout seul.
Je l'ai pas eu tout seul, l'idée, mais bon.
Tu es quand même le moteur de ce vieux rafio sombrant qu'est l'Appel de Cthulhu.
Oui, on va dire moteur.
Voilà, moteur, exactement.
C'est plein de choses, mais bon.
Et donc, qu'allons-nous faire, mon cher Wolf? Eh bien, je pense que, CG étant là...
Une petite interview s'impose.
Mon dieu, mais ce serait complètement à brûle pour point, complètement improvisé, comme si nous n'avions pas préparé les questions.
Quelle surprise!
Mais mon dieu, mais des tonnes de questions me montent à la tête. C'est comme si je les avais écrites auparavant. Donc, en effet, les poulpes, on a préparé une interview de Christian, donc le fondateur de Sans Détour, le cofondateur.
Je fais partie des fondateurs, oui.
Voilà, qui va venir nous parler donc de la V6 et un peu aussi de Sans Détour, de la licence et tout ça, pour nous en dire plus, nous faire baver, car comme vous l'avez vu à l'instant T où je vous parle, il a pris des photos de sa première version imprimable qu'il a reçue de l'imprimeur allemand.
Qui m'a grand instant d'émoi que de recevoir ce premier exemplaire.
Ah oui. Et ma foi, les quelques photos que tu as posées sur le site de Sans Détour donnent assez envie et montrent un ouvrage de bonne facture.
Je confirme, il est vraiment beau. Vraiment très très beau.
Tu l'as ouvert,
il est costaud, il est agréable, il est super sympa à feuilleter. Le papier donne envie. Et puis en plus, il sent le neuf. C'est bonheur.
Il ne se décollera pas.
Ah non, pas possible. Ou alors il faut y aller.
Ah ouais, parce que sinon,
faut y aller au chalumeau. Mais je pense pas qu'on ait trop envie d'y aller au chalumeau.
Parce que sinon, quoi, s'il se décolle, Wolf et moi, on vient chez toi, quoi. Fais gaffe. Hein.
Donc, ouais, bon, okay, les pages décollées. Okay, je préparerai le café.
Donc, pour vous présenter un peu cette superbe interview que nous allons faire comme ça avec donc Christian, nous allons parler de la licence, de la nouvelle version en elle-même, bien sûr, de Sans Détour, la boîte qui a fait sortir le poulpe, et puis quelques autres petites questions poulpiques qui nous ont traversé l'esprit. Donc nous allons commencer, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, les gens ont un métro, donc il faut faire bref. Nous allons d'abord parler de la licence. Alors, première question, Christian. Bonjour.
Bonjour
Christian. pourquoi reprendre le vieux Poulpe après 9 ans? Oui, nous avons vérifié, ça fait 9 ans que la dernière version française est sortie, la version 5, et dans une période que nous pourrions qualifier de bizarre pour le jeu de rôle. Pourquoi reprendre cette licence à ce moment-là?
À ce moment-là précis?
Oui.
Déjà, le Poulpe manquait. Le Poulpe était absent depuis trop longtemps, comme tu viens de le préciser. C'était un grand manque dans le paysage ludique français.
9 années, c'est vrai que ça fait long, il y a beaucoup de jeux qui ont soit disparu après ce genre d'époque, ou soit qui sont déjà passés à une nouvelle version.
Oui.
9 années, je veux dire, c'est un projet mûrement réfléchi qui aboutit à 9 années, ou c'est quelque chose qui tracasse l'esprit depuis 1 ou 2 ans, en disant, voilà...
Ça fait un bon moment qu'on a songé à ça.
Combien de temps environ?
C'est-à-dire que sur quoi est-ce qu'on aimerait travailler, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et en fait, l'idée de l'appel de Cthulhu s'est imposée d'elle-même.
D'accord.
Elle s'est vraiment imposée d'elle-même.
C'est parti. Tu voulais monter quelque chose, tu voulais reprendre une licence, et aussitôt, tu as pensé à l'appel de Cthulhu.
Oui, déjà parce que ça fait des années que l'appel de Cthulhu, je le pratique.
D'accord.
Je ne suis pas le seul dans ce cas, vous en savez quelque chose.
Oui.
Donc, comme le Poulpe était absent et que c'est un jeu qui est vraiment aimé en France depuis 30 ans,
oui.
Ou pas loin, donc du coup on s'est dit, ben tiens, y aurait-il moyen? Et on a fait les démarches, on a contacté Chaosium, etc., etc.
Alors voilà une bonne question, parce que je t'avoue que pendant cette période de vache maigre, on s'est tous un peu posé la question, surtout sur TOC, avec tellement de gens... très 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 motivé, on s'est posé la question de savoir, c'est combien le prix d'une licence, est-ce qu'on pourrait pas la récupérer, tout ça. Donc de ton côté, comment ça s'est passé la négociation avec Chaosium et la reprise de la licence française?
En fait, on a fait un dossier, tout simplement, un dossier très très carré, très chiffré, enfin tout ça, la totale, genre le truc bien sérieux, et ils ont vraiment énormément apprécié cette approche carrée, ouais. Professionnelle. Genre, on est sérieux,
Quand tu dis un dossier, tu veux dire que vous parliez de ce que vous vouliez en faire, des parutions vers lesquelles vous voulez vous orienter et tout ça?
Voilà notre vision, comment on voulait faire les choses, comment on voulait reprendre la licence, la redévelopper en France.
D'accord.
Etc. Et donc également, ce qui a également pesé dans la discussion, c'est le fait que... ça fait des années qu'on joue à l'appel, qu'on connaît bien l'appel et qu'on aime l'appel.
D'accord.
Et donc tous ces facteurs mis bout à bout ont fait que ça s'est très bien goupillé.
Ouais. Ils étaient contents de voir la licence reprise.
Ouais, très très contents de voir la licence reprise. Et ça fait un an donc qu'on travaille dessus de manière, je dirais, effective.
D'accord.
On y avait forcément pensé avant, puisque le dossier fallait le préparer, tout ça.
Sûr.
Donc, grosso modo, ça fait 2 ans de réflexion, dont 1 an de travail concret et intensif.
Et justement, ce travail concret, est-ce qu'ils ont un rôle de validation pour ce que vous comptez sortir?
Alors non, la politique de Chaosium est en fait relativement simple, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'adapter rapport au marché local. Enfin, c'est ainsi qu'ils appellent les choses. C'est-à-dire que la licence française, la licence allemande ou la licence autre.
Espagnole, ouais.
En fait, donc, il y a une liberté pour adapter par rapport aux habitudes de jeu, aux habitudes locales, dirons-nous.
D'accord,
donc, c'est un peu les coudées franches pour faire à peu près ce qu'on voulait. Dépoussiérer le Poulpe, comme tu le dis d'ailleurs si bien dans ta fiche.
D'accord, vous avez vraiment les coudées franches, eux c'est vraiment, je dirais, le fait qu'ils soient cités et qu'ils soient dans les droits, quoi.
Oui, enfin, etc. Puis bien sûr,
les royalties, ou les
on garde le genre qu'on utilise le basic system et toutes ces choses-là qui sont en fait le propre même de l'appel. Donc ça va de soi, je dirais.
Et j'ai qu'une petite
question. Ça vaut pour le système, mais en termes de scénario, de campagne, vous avez possibilité de créer un petit peu plus loin des choses à vous?
Bien sûr, on a complètement la liberté de créer, de sortir des œuvres originales, comme à l'époque d'ailleurs Descartes l'avait fait avec les années folles.
Okay,
Et donc d'ailleurs on va pas se priver, puisque le guide des années 20 déjà qui est prévu, et à 80% complètement inédit.
Oui, d'accord. Donc ouais, ça c'est vraiment c'est la preuve que ils te laissent la production. D'ailleurs, c'est enfin ça apparaît sur leur site. Ils ont l'air de plus facilement maintenant distribuer leurs licences pour que les éditeurs tiers fassent du poulpe.
Ouais, tout à fait.
Ok.
Donc, et elle a un nom justement cette licence ou c'est Chaosium avec Basic System et c'est tout quoi.
Non non, c'est simplement un contrat de licence. Hein, donc d'ailleurs en ce qui concerne la gamme l'appel de Cthulhu.
Et alors pour savoir, excuse-moi, pour savoir, ça court sur combien ce genre de licence? C'est un truc qui se renouvelle ou t'en as pris pour 10 ans?
Alors, on en a pris pour 100 ans au moins.
Ça classe.
Ah ouais, un mot. Il fallait signer un contrat avec longévité de profond. Pas le choix.
Tu as
laissé depuis,
ta famille,
je peux plus sortir, mais bon. La métamorphose a commencé, je suis foutu. Voilà.
Et donc, pour être précis, point de vue non, c'est sur combien de temps?
Très sincèrement, je ne sais pas, parce que c'est pas moi qui m'occupe de ce genre d'aspect.
D'accord.
Moi, je suis un peu plus le besogneux, donc je ne pourrais pas te dire ça. Je ne pourrais pas te préciser.
D'accord. Ouais, mais c'est vrai qu'on avait entendu que ça tournait autour de 4-5 ans, ou des choses comme ça, pour avoir, je dirais, la possibilité de développer quand même quelque chose d'intéressant.
Très sincèrement, je sais pas. Je sais pas, je le savais sans doute un jour, mais mon esprit ne s'en souvient plus.
Ok, alors sur la version 6, puisque c'est là qui va sortir, après tout, ouais. Tu es parti de quelle version pour l'élaborer, pour la construire, pour faire sortir ces monolithes cyclopéens?
Alors, j'ai compulsé ma petite bibliothèque. J'ai repris la version 1, la version 4, la version 5.5. J'ai repris également le Basic System que Chaosium nous avait confié bien avant sa sortie.
Ouais, donc la toute PDF, ouais.
Voilà. Donc et à partir de tout ça, l'idée était de tout remettre à plat. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, par exemple, quelque chose de très bête, c'est que le sommaire n'avait pas évolué depuis la première édition. C'était exactement le même sommaire. Qui tient quand même. On va peut-être un petit peu sortir le plumeau et dépoussiérer un peu tout ça.
Avec les mêmes nombres de pages.
Non, en fait, il y a juste le nombre de pages qui a augmenté, mais sinon le découpage était le même.
Si moi j'ai une ancienne version avec des griffes de chat de Lultar dessus d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'achèterais la toute nouvelle?
Ouais, pourquoi? Ouais.
Pourquoi vous achèteriez la petite nouvelle? Parce que vous faites partie du TOC? Non, c'est pas la bonne réponse.
C'est très juste, mais admettons qu'on soit pas dans TOC.
Donc, imaginons que vous soyez pas TOC.
Voilà, j'ai ma V5 chez moi, tranquille, comme disait Wolf. Pourquoi est-ce acheter une D6?
Alors, en fait, c'est une remise à plat complète et totale. C'est-à-dire qu'en 30 ans, il y a eu énormément de cas d'exception qui se sont greffés sur l'appel de Cthulhu, au niveau des règles, par exemple. Nombre de points de règles ont été étoffés, on a rajouté ci, on a rajouté ça, etc. Et au final, quand on met un petit peu les choses à plat, on se rend compte qu'il y a énormément de cas d'exception.
Et qui n'étaient pas intégrés dans les versions genre V5 et tout ça, quoi.
Au fil du temps, ça s'est accumulé au fil du temps. Et donc, au final, on obtient une mécanique qui, sur pas mal de petits points de détail, ça peut s'avérer être assez lourde.
Ouais, alors, d'accord. Tu veux dire que les rajouts, les petits scotchs et tout, finalement, au bout d'un moment, faut retirer tous les scotchs et revoir le cœur
de... Ouais, genre, on te crée la petite règle spéciale pour le fouet, etc. Enfin bon, tout ça, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a complètement décortiqué, repris le noyau du Basic System, avec donc les derniers petits rajouts qui étaient dans le Basic RPS, le dernier en date.
Ouais.
On a repris le noyau et on a vraiment reposé à plat pour complètement homogénéiser toutes les règles. C'est-à-dire finalement de simplifier complètement la mécanique, de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que l'appel de Cthulhu, dans l'esprit de tout le monde, c'est indécent, tu le lances, tu fais sous ta comp, etc.
Ça, ah oui, ça passe. Indécent, ah c'est ça, pourquoi il y a deux chiffres?
Merde.
Ouais, c'est vrai que...
Donc l'idée c'était de vraiment revenir à ça sans créer de cas d'exception. Entre les versions de bon alors je lance moi 5d6, 3d6 sous ta carac, ouais non mais là fais-moi un jet de compétences, ah ouais non mais on... D'accord. A tout simplement remis complètement à plat, ce qui fait que maintenant tout fonctionne sur les mêmes principes, toujours bon avec le dessin, le principe de pourcentage.
Et
on a aussi apporté pas mal de petites innovations de sorte à le rendre plus fluide. Comme par exemple le principe un principe tacite qui était présent dans l'appel de Cthulhu depuis toujours, mais mal expliqué puisque beaucoup, visiblement, ne l'ont jamais compris.
Ouais.
C'était le fait que, en fait, il y a très peu de jet de dés à faire. À partir du moment où tu as un niveau suffisant pour réussir, il y a une réussite automatique.
C'est automatique.
Et bon, visiblement, tout le monde n'avait pas saisi cette subtilité.
Ah oui, le nombre de fois où tu tirais, voilà, où tu tirais à bout portant et ah vas-y, fais un G. Ah, oh, t'as raté d'un pour cent, c'est trop ballot. Alors, et voilà, explique-moi comment j'ai raté. Je sais pas.
Voilà, c'est à peu près ça. On est remis à plat, c'est vachement plus simple, puisque bon, bah, là, on a intégré, enfin, je dirais formalisé ça, qui existe dans le basique depuis toujours, simplement par trois niveaux, qui sont amateurs, professionnels et experts.
Ouais. Donc,
si t'es expert, en gros, à part des circonstances exceptionnelles, tu peux pas louper ce que tu fais, quoi.
Ouais, tu sais, ce qui veut dire que finalement, vous avez pris ce que tout le monde a, je dirais, pensé, voire créé dans ses parties, pour en faire quelque chose de cohérent et qui structurellement tienne la route, c'est-à-dire que en pouvant appliquer les règles à certaines situations particulières, finalement vous avez généralisé pour qu'on puisse les appliquer à toutes les situations particulières et en faire un système là, je dirais, réellement générique, quoi.
Alors en fait là c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement on est parti dans l'optique de non pas partir sur des règles, mais sur les principes des habitudes de jeu, c'est-à-dire comment est-ce que l'appel est joué.
Quel genre de situation, à partir du moment où on est confronté, c'est
ce côté, quand tu vois une partie, comment ça se passe, c'est super fluide. Et donc, on est parti vraiment sur ce principe-là, qui est quand tu ne peux pas louper quelque chose, tu fais pas de jet de dés. Quand un professeur d'histoire doit faire un test pour savoir quelque chose d'évident, etc.
Mais...
Et que c'est seulement sur des cas précis ou des trucs obscurs que, effectivement, il faut que l'investigateur fasse.
Quand tu parles de cas précis et de trucs obscurs, moi qui l'ai lu, adulez-moi, bande de poulpes. Moi qui l'ai lu, on sent quand même que dans les situations que tu expliques, tu n'as pas perdu cette origine pulpique que tu avais au moment d'Archeos, dont je rappelle, tu es l'instigateur. Honté, qui fut un grand jeu et que je garde et que donc tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, mais on sent quand même on sent quand même une orientation assez pulp dans les situations, car autant il y a un côté sur santé mentale et tout ça, autant je vois il y a un chapitre sur les poursuites, il y a un chapitre sur les maladies tropicales, les déplacements, ce genre de choses. Tu as quand même un peu teinté le système basique.
Alors en fait, là, je vais répondre de manière plus large et pas aussi précisément sur le pulp. Je m'explique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a rajouté pas mal de chapitres. Alors déjà, au niveau de l'articulation, il y a un chapitre règles essentielles qui est assez minimaliste et qui suffit largement pour tout gérer. Mais derrière, donc, on a ajouté beaucoup de nouveaux chapitres qui n'existaient pas.
Ouais.
Comme tu le précisais, les courses-poursuites, etc. Comment gérer, par exemple, l'argent sans avoir à faire des comptes d'apothicaire, ou comment mener une investigation, comment gérer les indices, comment les trouver, comment mener un interrogatoire, obtenir des informations, enfin, toutes ces choses-là, je dirais, sont inédites, mais de sorte à donner des outils, si nécessaire, en cas de situation.
Ça fait l'ouvrage une espèce de bible qui référence toutes les situations, parce que j'ai eu beau regarder, c'est vrai que ça traite beaucoup de situations, et toutes les situations probables à l'appel au Cthulhu, quoi.
L'idée étant, quand tu as le livre de base, tu peux tout gérer, et nous, ça nous permet derrière de ne pas remettre des règles. Tu as un livre de règles, derrière, on se concentre sur le background et sur les campagnes et scénarios.
Ouais, et en plus, à part pour certaines règles vraiment spéciales, genre dans le futur, des choses comme ça, mais ce qui en fait quand même un système entre 1890 et notre époque, un système générique à la GURPS, où finalement, que ce soit dans la thématique lovecraftienne ou dans la thématique pulp dans les années 30 ou dans la thématique enquête à notre époque, ça permet, cette flexibilité-là permet finalement de maîtriser dans toutes les époques que j'ai citées.
Et c'est exactement ça l'idée, et c'est pour ça que, rapport à ta question sur le pulp, c'est un peu plus large,
ouais.
Parce que... Effectivement, on a des campagnes qui existent de l'appel qui sont beaucoup plus orientées pulp que d'autres. On a des scénarios qui sont beaucoup plus orientés horreur. Il y a un peu de tout. L'appel de Cthulhu a toujours été un jeu de façon protéiforme où il y a des gens qui faisaient aussi bien des parties pure horreur, mythe, orientées 100% mythe, comme d'autres qui, à la limite, faisaient du Agatha Christie ou du pure pulp de l'Indiana Jones.
Ah non, les mythes, c'est l'horreur. Oui, mais
l'idée c'est de répondre un petit peu à toutes ces situations et de pouvoir permettre avec des règles.
Je dirais que là ça pointe quelque chose, parce que quand j'ai dit Bible, j'ai pesé mes mots, parce que c'est vrai que c'est même, voire, je dirais, un peu un catalogue des situations courantes. Et ce qui fait, en réalité, ce qui fait que l'ouvrage en lui-même, par rapport aux productions actuelles qui sont quand même super basées sur le design, l'accroche visuelle et tout ça, ça fait de l'ouvrage plus un ouvrage de référence que, j'irais, un ouvrage d'illustration.
Bah, clairement, oui, dans la mesure où, avant tout, c'est un livre de règles, puisque, bon, livre de base, livre de règles, blabla.
Ouais.
C'est avant tout un outil. C'est-à-dire, il doit remplir son office de « je suis MJ, j'ai besoin de savoir comment gérer telle ou telle situation, de ci ou ça ». J'ai la réponse dans le livre de base. J'ai pas besoin de me souvenir que c'est dans le supplément numéro 363, paru en novembre 1873, qu'il y avait ce point de règle.
Non, 1792, que sorti tout à fait. D'un autre côté, je veux dire, t'as pas peur que le côté plus sobre que certaines productions, que je dirais, ça va attirer un public peut-être de gens qui jouent déjà ou ce genre de choses, non? Le fait que tu bases vraiment sur le contenu, quoi.
Je reprendrai en fait ce que tu dis, toi, finalement, dans ta chronique sur cette édition. Que oui, c'est une boîte à outils, mais qui n'est pas qu'une boîte à outils. C'est-à-dire que lorsqu'on lit les règles, il y a plein d'anecdotes, plein de petites choses, plein de petites trivia qui font que la lecture est intéressante, qu'on apprend des choses.
Si on regarde, finalement, tu as préféré, je dirais, à des illustrations plus ou moins dans le thème, des exemples tirés de l'histoire, tirés de tes connaissances ou tirés de choses comme ça. Tu as préféré, oui, je dirais, l'explication par le petit encart, ce genre de choses.
Tout à fait. Bah, comme l'exemple tout bête, le MJ qui se retrouve dans la situation de, le gardien, dirons-nous. Qui se retrouve dans la situation de combien de temps va-t-il survivre s'il est enterré vivant? Bon, voilà, il a la réponse.
Et oui,
et c'est une petite anecdote, une petite trivia.
Mes amis, oui, Christian le dit bien. Si tu es enterré sous terre, si vous achetez la V6 de la PE Toulouse, vous saurez combien de temps ça dure. Et même si le type a la chiasse, il est en train de se vider par un orifice que je ne citerai pas dans le podcast, vous avez la durée pendant laquelle il va se vider.
Non, c'est vrai que
Non, mais enfin, moi, je me rappelle de pas mal de scénars, finalement, de scénars de l'appel où tu te retrouves en pleine jungle et tout ça, leur foutent une petite maladie bien exotique avec les effets derrière et tout. C'est vrai que ça peut aider à rendre le bousin beaucoup plus crédible et tout ça, quoi, parce que...
Ah, ou simplement faire rendre un petit peu au travers des règles le fait que, la chaleur humide, c'est pas super confortable pour un occidental qui a pas l'habitude. Et voilà. Que bon, ça se retranscrit au niveau des règles pour faire ressentir cette ambiance. C'est-à-dire que les règles sont là au service de la narration et non pas pour alourdir les choses.
Pour apporter ma pierre du fait de l'avoir lu, à tous ceux qui se disent, ouais, mais finalement, comment on réussit à traiter, je dirais, tous ces cas-là par des règles qui restent simples, c'est que finalement, tu as pris la base du dessin, c'est-à-dire une compétence. Ce que tu as dit, c'est que une compétence forte fait que certaines actions deviennent automatiques, ce qui est normal, et par contre, essentiellement basé sur un système de bonus-malus avec plus 10%, plus 20%, moins 10%, moins 20%, qui va être explicité avec ses effets, gérer ses effets particuliers pour chacune des situations. Par exemple, être dans certaines situations va donner un malus de 10% parce qu'il fait chaud, moins 20% parce qu'il fait chaud et tiède. C'est ce genre de choses-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien que les gens appréhendent que ce n'est pas une multitude de petites tables, mais un système de bonus-malus qui, en devenant générique et finalement en étant appliqué à des exemples concrets, fait qu'on peut résoudre tout.
Ouais, c'est-à-dire que le gardien, en fait, très facilement, il gère le truc en 2 secondes derrière son écran sans avoir de questions à se poser. Parce que c'est toujours la même mécanique, c'est toujours la même simplicité. Il n'y a pas de cas particulier, comme par exemple, dans ce cas de figure, est-ce que c'est un malus de temps ou de temps? Non, c'est toujours 10 ou 20%.
Voilà, donc, on se dit, on reste dans quelque chose qui va finalement devenir très très rapidement, je dirais, un peu intuitif, quoi.
Ouais, et qui plus est, en plus, cette mécanique de bonus-malus, elle est dans le basic system depuis toujours. Donc il n'y a pas de grande nouveauté sous le soleil, je dirais, simplement c'est formalisé, de sorte à ce que ce soit limpide et que ça puisse répondre à chaque situation.
Alors, toute cette foultitude de règles, finalement, t'as dû la faire tester avec des joueurs, des vrais joueurs. Ça s'est passé comment?
Oui, en chair et en os.
D'abord, c'était avec qui? On veut savoir des noms. Hein,
mais ils sont génériques, en plus. J'ai testé avec 3 profils, je dirais. C'est-à-dire qu'on a fait des tests avec 3 profils de joueurs, des poulpes convaincus.
Ouais, parce que jouer avec des genres de profils, ça va pas être facile quand même. C'est ce qui est drôle. Pardon, excusez-moi.
Tu hésites pas, non.
Donc, tu disais le premier, excuse-moi, le premier profil.
Premièrement, ben, des adeptes du poulpe, hein, le...
Déjà, ceux qui connaissent bien les sons,
etc., et qui ont l'habitude de jouer depuis des années.
Ceux qui ont tout fait, quoi.
Voilà.
Le les masques profil, à l'envers, à tout ça. Juste pour suivre à chaque fois, eux, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont accroché au niveau des playtests? Qu'est-ce qui leur a plu dans la nouvelle version en quelque
La simplicité. C'est-à-dire que d'une part, ce qu'il aura plus, c'est la simplicité, et d'autre part, ben, de toute façon, on a nos repères. C'est marrant, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé, mais en fait, on se rend compte que ben, c'est vachement plus fluide et que c'est vachement plus simple.
Au niveau de la...
Donc, on est chez soi, mais c'est mieux. La peinture a été refaite, c'est cool.
C'était vert, ça commençait à être un peu délavé, maintenant c'est vert pétant.
Voilà.
Et pour la seconde, je dirais, le second type de playtester.
Alors, c'est plutôt du ce qu'on appelle du casual gamer, c'est-à-dire des gens qui jouent de manière occasionnelle. Ouais. Donc, des personnes qui n'ont pas fait de partie depuis un moment, enfin, etc. et compagnie.
Ce qui de base fait la force d'Octoulou, parce qu'on parle toujours d'Octoulou comme d'un système où on peut faire des parties avec les débutants et même reprendre avec des anciens et tout ça.
Bon, là, on est parti avec le principe des prêts tirés qui sont dans le livre de base. Donc, c'est très simple à mettre en place, et puis ça accroche tout de suite. Donc, je dirais que là, il n'y a pas eu de surprise particulière, puisque ça a toujours été le cas avec l'appel de
Cthulhu. Avec eux, finalement, c'est les acquis, je dirais, d'un système simple à base de dessin où tout le monde, le visualise, qui ont fait la force du non-changement,
voilà.
Je dirais, dans ce cas-là.
C'est la confirmation de ça. Et le troisième type de joueur, je dirais à la limite, c'est presque le plus intéressant entre guillemets, puisque là on est dans des domaines connus jusqu'à présent.
Des profonds.
Donc c'est le troisième domaine, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec des systèmes minimalistes, par exemple comme Wushu, etc., où ils mettent en avant l'aspect narratif. Et ils ont été très agréablement surpris par la fluidité de la mécanique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus du tout l'habitude, par exemple, de gérer un combat ou des scènes d'action ou autre chose avec un découpage en round. Ils ont trouvé que c'était très fluide, même si cet aspect découpage en round, ils n'étaient plus habitués et que ça les gênait un petit peu. C'est passé tout seul. Donc là, pareil, c'était, je dirais, mission accomplie, puisque du coup, avec trois profils différents de joueurs, c'est passé très très bien.
À chaque fois, ça a fonctionné. Donc ça, c'est, ouais. C'est, ça veut dire que ça reste, c'est-à-dire que la V6 reste un système qui finalement satisfera. Enfin, les gens sont contents.
Satisfait.
Ça va satisfaire. Pardon. Donc les gens qui jouaient déjà seront contents. Les occasionnels resteront sur un système simple et en plus, on pourra rajouter les gens qui veulent un système assez léger où on jette pas des brouettes de dés, où certaines actions sont automatiques et tout ça.
Voilà, parce qu'en au final, je sais pas, on a dû faire une dizaine de jets dans la soirée. Voilà, c'est tout ce qu'on a dû faire comme jets de dés dans la soirée. Tout le reste, en fait, c'était on vit une histoire. Et on en garde un bon souvenir.
Et ces jets-là, en plus, ne coupez pas l'ambiance, ne devenez pas compliqué. Genre, attendez, il faut que je vous explique la règle et tout ça, quoi.
Non, c'était simplement un dessin à lancer. Voilà, t'as la compétence, t'as le pourcentage, ça va tout seul.
Et alors, la V6, ça fonctionne mieux avec une équipe de 3, 4, 5 joueurs, plus ?
Personnellement, j'aime les tables de 3 joueurs maximum parce qu'on garde une bonne ambiance. Après, c'est une question de gardiens et de joueurs, de leurs habitudes.
Mais je dirais que oui, je comprends la question de Wolf, c'est de dire que finalement, si les règles sont mieux expliquées aux gardiens, si plus de situations sont expliquées, finalement, tu plus facilement gérer une équipe qui peut être un peu plus nombreuse. Tu n'es pas obligé de te limiter en te disant, oh là là, vu que les règles sont compliquées, vaut mieux que je reste à 3 joueurs.
Non, oui, en effet, c'est-à-dire comme les règles restent très simples, tu ne t'encombres pas à devoir farfouiller en permanence dans le bouquin ou quoi aux caisses. Tout est résumé sur l'écran, ça va très vite. Et puis, de toute façon, même si c'était pas résumé sur l'écran, pourcentage, modificateur, ça va. C'est pas très très violent à gérer, quoi.
Et au niveau justement de ces tests, tu les as fait sur quel type de scénar plutôt du one shot? C'était quoi sur une campagne? Tu parlais d'une soirée tout à l'heure, ou alors juste un petit scénar classique de l'appel?
Alors déjà, ils ont été faits avec le scénar qui est dans le livre de base, d'une part. Parce qu'en même temps, ça permettait de playtester le scénar-là, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose.
Ou tout à fait,
c'est vrai, oui.
Voilà, donc lui est orienté tout à fait très classique, très Lovecraftien dans l'approche, dans le style d'histoire qui est raconté. Et j'ai également testé avec du scénario complètement débridé, pulp, à la genre La Momie, et où pareil, bah, ça passe très très bien.
Tu veux dire qu'on peut faire des cascades avec le système V6?
On peut.
Non, c'est cool.
Non, on peut et ça passe très bien.
Et ça finit toujours mal.
Ça finit toujours assez mal, mais par contre...
Très mal.
Par contre, c'est
alors,
vrai
en fait, en fait, non, pour donner l'idée, par exemple, par rapport à l'approche pulp et au basic system, parce qu'effectivement, ça peut sembler incompatible, c'est très simple. On peut, en fonction de la qualité de réussite que l'on obtient dans cette mécanique de jeu, c'est-à-dire bon, réussite normale, faire sous son jet de pourcentage, réussite spéciale, faire en dessous du cinquième, et puis le critique, on obtient un résultat plus ou moins de bonne qualité.
Ouais. C'est vrai que la réintroduction du critique qui finalement n'était que très très peu présent dans l'appel auparavant, qui avait toujours été présent dans des jeux genre RuneQuest et tout ça basé sur le BRP, là vous l'avez réintroduit
voilà,
bien au niveau des G. Quoi.
La spéciale donc, qui a été vraiment remise, appliquée à toutes les situations, permet tout simplement bah, de faire en sorte
il
que lorsqu'un fait, joueur...
Il y avait
niveau...
une spéciale.
Ouais, vous savez, j'ai compris. Quand un investigateur a un niveau assez élevé dans une compétence, les probabilités pour qu'il obtienne une réussite spéciale sont fortement augmentées. Et donc, par exemple, qu'est-ce que ça permet d'obtenir une spéciale? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet ben, de faire des choses qui sortent de la norme.
C'est
comme
vrai que
son nom l'indique, je dirais, la spéciale, tu fais des choses spéciales.
C'est vrai que là, tu pointes un truc qui est intéressant, c'est que autant on peut parler de succès critique et succès spécial, je dirais, un peu aléatoirement, là, dans ce que tu dis, en réalité... c'est que finalement tu peux vouloir provoquer une action, je dirais, particulière en te disant bon bah voilà, je me mets au défi de faire une action vraiment c'est qu'à le dire spéciale, et dans ces cas-là je me dis que bah, je réussirai cette action que si je fais un succès spécial.
C'est exactement ça.
Un petit peu de volontaire.
C'est-à-dire que bah en fait dans le mode pulp à la création de personnages, les investigateurs, ils ont plus de points à répartir. Donc, du coup, ils ont des compétences à un niveau beaucoup plus élevé. Et donc, de fait, sont capables de faire beaucoup plus de choses. Tu veux grimper à une corde tout en tirant pour couvrir ton pote qui est en bas, etc. Normalement, avec la mécanique, t'as des malus, des machins, tout ça. Ouais, ok. Mais là, si tu veux simplement réussir ce truc-là, bah, il suffit d'obtenir une réussite spéciale. C'est-à-dire que bah, tu as quasiment 20% de chance d'y parvenir.
Ouais,
ce qui est relativement raisonnable, dans la mesure où faire 36 choses en même temps, c'est un peu compliqué.
Ouais, et puis en plus c'est intéressant parce que ça veut dire que si t'as bien boosté une compétence,
là,
tu vas pas te retrouver au même niveau que les autres. Tu vas dire par exemple si c'est faire un dérapage, l'un fera un dérapage, alors, je dirais en voiture, alors que l'autre qui est vraiment expert dans la compétence conduite va dire non, moi je fais un dérapage inversé avec ouverture de la portière, sortie du Tommy Gun et je décharge une première salle dans sa putain de face. Un truc comme ça, quoi.
Et tu finis par tomber dans le ravin à 3000 mètres.
C'est à peu près ça.
Comme celui qui finalement n'avait pas beaucoup de compétences.
D'ailleurs, là-dessus, en ayant parcouru un petit peu en cachette chez vous les pages.
Oh, le four.
Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de petits encarts que nous on appelle entre nous historico-pulpique, c'est-à-dire tu vas puiser dans l'histoire, c'est à certains éléments. Quelles sont tes sources d'inspiration là-dessus? Où est-ce que tu vas piocher ce genre d'infos?